pour reprendre l'expression que j'ai vue sur Twitter, M. Trump, sans doute comme une adolescente de 15 ans qui a peur de se mouiller les cheveux en allant à la piscine, s'est pas pointé à la cérémonie de samedi. Paraît-il qu'il était souffrant, en tout cas. Mais officiellement, donc, je pense qu'il n'aime pas la pluie, mais plus sérieusement, 100 ans, donc, qu'on a souligné en fin de semaine la fin de la Première Guerre mondiale.
C'est moi, ça me touche toujours au mois de novembre quand les témoignages rapportés par les médias sur ces jeunes personnes qui sont engagées dans différentes guerres. Là, on célébrait, c'était symbolique, le 100e de l'armistice de la Première Guerre mondiale en 1918. t'as plein de citoyens aussi avec leurs médias sociaux qui mettent des photos d'un oncle, d'un père, d'un grand-père, etc. Marc Brière qui est venu témoigner à ton micro vendredi dernier. Puis écoute, j'ai des frissons en te le disant. Mon grand-père, Roger Soriol, s'est engagé, a menti sur son âge à la Deuxième Guerre mondiale pour pouvoir s'engager dans le Royal 22e. T'as allé combattre en Europe. On a tous des histoires comme ça. Et il y a des guerres justes, il y a des guerres existentielles, il y a des guerres de choix, des fois, qui sont injustes. Mais ce qui ne peut pas être remis en cause, c'est le courage de ces gens-là qui étaient dans les tranchées. Puis, pour mettre un peu de contexte, là, quand Donald Trump décide de ne pas quitter sa chambre d'hôtel, de continuer à tweeter à propos de ce qu'il voit sur Fox, parce que supposément que l'avion de Marine... l'hélicoptère Marine One ne peut pas le transporter à cause du mauvais temps. Écoute, il y a plein d'officiels de Bush et d'Obama qui ont dit qu'il y a toujours des plans B, il y a toujours des plans C, il y a toujours des plans D. À la fin, quand le président veut y aller, on va trouver une façon d'y aller. Probablement qu'il ne voulait pas être décoiffé, mais juste donner un peu de contexte. Ce qu'on appelle la bataille du Bois Belleau, ça a été tellement dur pour les forces américaines, pour les Marines, pour le 2e bataillon, 6e régiment, en 1918, 1000 morts, 3000 blessés, du shrapnel, les bombes, des balles, et aussi le gaz moutarde, hein, parce que ça a été, cette guerre-là, ça a été une guerre qui s'est aussi déroulée à l'arme chimique. Tellement important le sacrifice des troupes américaines au Bois de Belleau qu'à l'époque, l'armée française a rebaptisé le Bois de Belleau « Bois de la brigade de marine ». Ça donne une idée des sacrifices que les Marines ont payés et de voir le président américain ne pas y aller. Le même homme qui avait dit, après une fusillade dans une école en Floride, « Savez-vous quoi, moi, si j'avais été là, je serais rentré pour aller confronter le tireur. T'es même pas capable d'aller rendre hommage à des morts dans la pluie. »
Moi, le chiffre que j'ai retenu de cette sale guerre, de la guerre 14-18, c'est 18 millions de morts. Ce chiffre-là est effarant. Et il y avait, donc, j'entérine ce que tu dis, on ne peut pas ne pas avoir du respect pour des gens qui ont décidé consciemment d'aller défendre leurs valeurs puis leur pays puis de participer à cette guerre-là. Cependant, toute la cérémonie, il y avait beaucoup d'ambiguïté dans cette cérémonie-là. Il y avait 70 chefs d'État qui marchent. C'est pas rien. C'est sûr qu'il y avait Poutine, Trump et tout ça, mais ils étaient quand même là à marcher ou à être aux célébrations. Mais il y a eu aussi ce discours de Macron qui était un discours complexe parce que il dénonçait en quelque sorte les nationalismes et la montée des nationalismes un peu partout dans le monde. Donc, nationalisme, mot qu'on ne peut plus utiliser au Québec dans le sens où les Québécois l'entendaient avant. Moi, je ne me déplorerai plus jamais nationaliste parce qu'on ne peut plus utiliser ça. Parce que le nationalisme est identifié à des factions qui sont plus que de la droite, de l'extrême droite, des gens là qui farouchement sont prêts à prendre
le
les armes.
Le mot est connoté maintenant.
Ouais, c'est
connoté
ça.
Xénophobe.
Il est lourd. Donc, il y avait ça. Puis en même temps, il y a beaucoup de mensonges parce que parmi les chefs d'État, il y en a qui sont en guerre ou qui commettent des exactions. Parce que la vraie réalité, c'est qu'on célèbre ce centenaire-là et on a raison. On honore les gens qui ont perdu la vie. Mais la guerre continue, mais elle a changé de visage. Puis ça m'intriguait. Je regardais ce qui se passe. La guerre est maintenant et surtout au Moyen-Orient puis en Afrique. Et ce qu'elle cause comme dommage, c'est à peu près plus ou moins 100 000 morts par année, encore maintenant. Mais ce que disent Médecins sans frontières et les autres, c'est que le nombre de blessés, de victimes de ces guerres-là est encore très élevé. Autrement dit, la question de comment on maintient la paix, comment on maintient la paix sur la planète, c'est toujours une question aussi actuelle, je trouve.
Mais écoute, moi, je suis pas un expert de la Première Guerre mondiale, je suis pas un expert de la Deuxième, mais ceux qui sont des experts qui comparent les deux, vont généralement dire que la première, il y a eu comme une confusion. En France, par exemple, on l'a appelé la drôle de guerre, je pense. Les gens pensaient que ça allait durer 6 mois. C'était comme, on va aller en guerre, on va faire la guerre. Mais il n'y avait pas... Tu cherches la raison de la première guerre, c'est pas comme la deuxième. La deuxième, tu avais une guerre d'agression. Les nazis agressaient leurs voisins, puis il y avait des velléités de conquérir le monde. Mais la première, une des leçons, semble-t-il, c'est où ça peut amener le nationalisme, où ça peut mener les États quand ils mettent la fierté en avant de leurs intérêts, par exemple. Puis ça, c'est des leçons qui sont bonnes tout le temps. C'est des leçons qui sont bonnes aujourd'hui. Quand tu fais la guerre, quand tu choisis d'envoyer des gens se battre, tes raisons ont besoin d'être bonnes. Puis souvent, comme peuple, puis je parle pas juste de nous ici, comme peuple, on a toujours tendance à penser à comment je te dirais? On a toujours tendance à penser qu'on a raison. Les gens qui s'engageaient là, dans les armées fascistes pensaient aussi qu'ils avaient raison. Et ça, il faut toujours que tu remettes en question, est-ce que c'est une bonne idée d'y aller? Moi, je pense qu'il y a bien des guerres qui ont été faites, par exemple par les Américains, par exemple par les Russes qui sont allés en Afghanistan. C'était-tu une bonne idée? Est-ce que ça valait la peine? Aujourd'hui, c'est facile à dire, mais tu regardes l'Irak. Y a-tu un examen de conscience aux États-Unis sur cette guerre-là, qui est une forme de guerre d'agression inutile, où le Trésor public américain a dilapidé des fonds immenses? Il y a des vies irakiennes, des vies américaines, des vies britanniques qui ont été gaspillées pour absolument rien. Il n'y a pas eu cet effort de conscientisation aux États-Unis. Il n'y a pas eu de retour là-dessus. Au Canada, on l'a fait en amont, puis on a décidé de ne pas y aller.
Tu as un bon point de vue, parce que dans le fond, ce qu'on devrait se dire, c'est... Là, les guerres, ça a toujours été une fatalité. Puis on a l'impression que parce que des guerres mondiales, en principe, ne sont plus possibles, parce que ça voudrait dire l'arme atomique éventuellement, tout ça, on a l'impression que le problème de la guerre est comme moins important. Mmh, mmh. Mais la vraie question, c'est quand on continue le commerce des armes, quand on exacerbe la polarisation dans les différents pays, quand on laisse se dérouler les conditions favorables et qu'on tolère ce qui se passe au Yémen, ce qui se passe en République, moi, je pense que le combat là, pour la paix, là, c'est quelque chose qu'on néglige un petit peu parce qu'il y a tellement de préoccupations.
On s'arrête là-dessus. On vous souhaite une bonne journée, puis on vous retrouve demain matin, 8h53. La métropolitaine, Marc.